France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Que se passe-t-il à Hong Kong alors qu'hier un mouvement de grève générale a été lancé pour une journée par une population inquiète pour son avenir, s'interrogeant probablement aussi sur son identité. Pékin semble dans l'embarras face à ce qui peut être considéré comme une remise en cause de la mainmise chinoise sur cette région administrative spéciale et finalement du un pays deux systèmes qui a cours depuis la rétrocession de 97. Les autorités envisagent-elles un dénouement violent? Vont-elles demander à l'armée de reprendre la main ou peuvent-elles au contraire temporiser, tenter de prendre en compte quelques aspirations démocratiques, car c'est bien ce qui se joue dans les rues de Hong Kong ces jours-ci. La jeunesse, cette fois rejointe par différentes catégories de population, demande de plus en plus clairement une évolution démocratique, notamment une réforme du mode de scrutin pour les élections législatives dans le territoire. Un pays, deux systèmes et beaucoup de problèmes. On aura tout à l'heure une conférence de presse à Pékin sur la situation à Hong Kong. On verra en fonction de l'heure de cette conférence de presse si on peut commenter les annonces qui y seront faites. En tout cas, nous sommes ce matin avec Sébastien Weg, bonjour.
Bonjour.
Pour commenter et analyser cette situation, vous êtes directeur d'études d'histoire intellectuelle de la Chine du XXe siècle à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Et puis, depuis Hong Kong, nous sommes en direct par téléphone avec Éric Sautedet, bonjour à vous.
Oui, bonjour à vous.
Il est actuellement 13h40 à Hong Kong. Vous travaillez à Hong Kong. Vous êtes un observateur de la vie locale. Et on va peut-être commencer avec vous, Éric Sautedet, pour cet entretien. Oui. Où en est ce mouvement qui est finalement assez inédit, hein. C'est une méthode de lutte peu usuelle qui a été utilisée hier à Hong Kong. La grève, ça correspond pas vraiment à une tradition politique habituelle.
Oui, non, il y a eu plusieurs interventions. Effectivement, un appel à la grève générale à Hong Kong, c'est rare. Beaucoup de gens ont fait des références, d'ailleurs, enfin, des historiens spécialistes de Hong Kong ont rapproché le mouvement avec ce qui avait pu se passer dans les années 20 ou les années 60. Donc, il faut remonter quand même assez loin dans l'histoire pour avoir des exemples de grève générale à Hong Kong. En plus, la grève, c'est quand même avant tout pour des raisons économiques et une exploitation économique. Alors que là, c'est clairement des raisons de questions politiques et une contestation du pouvoir en place et notamment du chef de l'exécutif. Alors, ce qu'on voit depuis deux mois, hein, pour faire bref, parce que c'est qu'on en est quand même à la 9e semaine d'action collective, c'est effectivement, comme vous le signalez, quelque chose d'assez inédit et surtout une réinvention permanente de la lutte et de la volonté de remettre en cause ce qui a été présenté comme un fait accompli, qui était ce passage d'un amendement de la loi pour l'extradition vers la Chine, qui a été perçu par la population, les professionnels d'abord et ensuite la population plus largement, comme une menace des libertés.
Tout est parti effectivement de ce projet de loi d'extradition. Ça a été évidemment considéré comme impossible pour une partie de la population. Aujourd'hui, les revendications sont bien plus larges, on l'a dit, hein. Donc il y a ce retrait qui est demandé, retrait pur et simple. Là, pour l'instant, ce projet de loi est déclaré mort par Carrie Lam, la chef de l'exécutif, dont on demande d'ailleurs aussi la démission, l'ouverture d'une enquête sur les violences policières, une amnistie pour les contestataires, et puis des réformes démocratiques. Je sais pas si vous êtes toujours avec nous, Éric Sautedet, mais hier le mouvement a été extrêmement fort, hein. Cette manifestation, chaos dans le métro, les autorités ont semblé vraiment débordées.
Oui, alors je ne sais pas si c'est volontaire, parce que le matin même on avait eu une conférence de presse de Carrie Lam, donc de la chef de l'exécutif, avec tous ses aides, tous les ministres qui étaient avec elle, certains sont même intervenus, donc essayant d'instiller un petit peu la peur en disant que voilà, toute la sécurité de la ville était mise à mal, que les gens jouaient avec les jeunes manifestants jouaient avec le feu, que c'était vraiment aussi prendre un très très gros risque pour Hong Kong. Donc il y avait vraiment cette volonté de tirer la sonnette d'alarme, et ça n'a pas du tout de faire peur aux manifestants d'une certaine façon, et ça n'a pas du tout été suivi. D'après les organisateurs, il y a eu 350 000 personnes en grève hier quand même, avec 290 000 personnes participant activement aux manifestations. Effectivement, comme vous l'avez dit, en fait c'était même 8 lieux dans toute la ville. Moi j'ai participé, je suis allé dans l'après-midi à Sha Tin dans les Nouveaux Territoires. C'était très impressionnant de voir notamment les centres commerciaux qui d'ordinaire sont l'apanage des acheteurs, envahis complètement par les manifestants en noir, beaucoup de jeunes, mais pas simplement des étudiants, aussi beaucoup de jeunes actifs, donc qui avaient débrayé ce jour-là pour participer à ce mouvement de contestation qui va au-delà de la loi, mais qui est quand même très très centré sur Donc le retrait, comme vous l'avez dit, ça c'est quelque chose qui revient systématiquement. Pour être tout à fait honnête, à Chatine et ailleurs, la démission de Carrie Lam, ça reste quand même moins la priorité. Ce qui est vraiment la priorité aujourd'hui, c'est de dire que le système ne fonctionne plus et d'avoir cette revendication démocratique, cette revendication de réforme politique, de façon à ce que la responsabilité des politiques soit enfin établie, puisque pour l'instant on a l'impression d'une surdité complète. La dernière fois que Carrie Lam a fait une semi-concession, c'est quand même le 15 juin, alors que le 16 juin, il y a eu 2 millions de personnes dans la rue. Donc c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même une incompréhension totale entre les deux bords.
Alors Éric Sotodé, vous nous parlez de réinvention permanente de ce mouvement de contestation. Sébastien Dvagh, est-ce que c'est la bonne méthode, la grève, pour faire plier Pékin, à espérer faire plier Pékin? C'est déjà une gageure d'espérer d'un jour peut-être faire plier Pékin. C'est une région qui historiquement est peu politisée ou qui a mis du temps en tout cas à se politiser.
C'est vrai qu'au cours de ce mouvement, on a vu une évolution assez marquée. Disons que ce mouvement, est en cours depuis plusieurs mois, mais il s'est vraiment déclenché avec la grande manifestation du 9 juin, suivie de celle du 16 juin. Donc le 9 juin, il y a eu 1 million de personnes qui ont manifesté. Le 16 juin, 2 millions de personnes, donc ce qui est le quart des habitants du territoire, plus du quart.
C'est considérable.
C'est quasiment inouï. Enfin, il y a très peu de situations dans le monde où on rencontre ce type de pourcentage de mobilisation. Aujourd'hui, les sondages dont on dispose montrent que ce soutien n'a pas vraiment changé, que 80% de la population soutient le retrait du projet de loi d'extradition, le retrait formel, donc pas simplement l'expression qu'a utilisée la chef de l'exécutif qui a dit qu'il était mort, mais qui refuse de le retirer.
Oui, donc, il peut ressusciter, c'est ce que craignent les
voilà, enfin même si formellement c'est pas non plus forcément un danger, mais en tout cas s'il est pas formellement retiré, il peut être remis à l'agenda du Parlement avec un délai d'une ou deux semaines jusqu'à la fin de la législature. Suite à cette mobilisation, je pense qu'il y a eu une grande euphorie dans la population congolaise d'avoir effectivement obtenu dans un premier temps la suspension du projet de loi. Donc Pékin a quand même reculé, le gouvernement congolais et Pékin ont reculé. Alors Pékin a mis en avant le fait que ce projet avait été poussé par le gouvernement hongkongais et non pas initié par Pékin. Bon, on peut pas exactement savoir, ça c'est la boîte noire des relations entre le gouvernement hongkongais et Pékin. En tout cas, il y a eu quand même un premier succès et ensuite il y a eu une situation de gel. Et face à cette situation, donc cette stratégie du gouvernement hongkongais qui ressemble à la stratégie adoptée en 2014 pendant le mouvement des parapluies, où en fait le gouvernement hongkongais disparaît, se réfugie derrière la police et essaye de tourner l'opinion publique contre les manifestants.
Néanmoins, il y a un recul là, Sébastien Dvagh, vous l'avez dit, alors qu'en 2014, il n'y a pas eu de recul.
Tout à fait.
Ce qui montre bien que Pékin est dans l'embarras face à un mouvement qui est général. Vous dites un quart de la population, quelle sociologie à ce mouvement? On a entendu parler beaucoup des fonctionnaires qui sont entrés en grève hier, il y a des chefs d'entreprise, il y a des économistes aussi, ou en tout cas le secteur économique qui est impliqué?
Non, c'est un mouvement vraiment de masse, donc qui traverse tous les secteurs de la population hongkongaise. Donc, bon, le seul clivage, mais relatif, hein, c'est un clivage générationnel. Donc, effectivement, les Hongkongais plus âgés qui sont généralement plutôt nés en Chine, en tout cas plus que les générations plus jeunes, soutient un petit peu moins le mouvement. Mais enfin, c'est à quelques points de pourcentage près. On parle de chiffres autour de 90% pour les plus jeunes et 70 ou 65% pour les personnes plus âgées. Donc c'est un mouvement qui touche véritablement toute la population et qui est tellement massif parce que effectivement les Hongkongais estiment que ce projet de loi représente un danger non seulement pour les valeurs fondamentales de Hong Kong, mais aussi pour la prospérité, la viabilité économique à long terme de Hong Kong. C'est-à-dire que sans la sécurité juridique, Hong Kong est directement menacé de perdre tous ses avantages économiques, de perdre son statut de plateforme financière et de plateforme des affaires en Asie.
Ce qui serait bon pour personne d'ailleurs, ni pour Pékin, ni pour Hong Kong.
C'est une contrainte à laquelle Pékin doit aussi faire face. Donc Pékin est dans une situation assez compliquée avec beaucoup de facteurs. Le contexte international, la guerre commerciale, les élections à Taïwan en janvier. Donc toute intervention trop musclée à Hong Kong serait de nature à tendre encore plus les relations entre la Chine et Taïwan. Donc le 70e anniversaire de la République populaire de Chine le 1er octobre. Donc bien sûr, Pékin ne souhaite pas que cet anniversaire soit marqué par des manifestations à Hong Kong comme ça a été le cas ces derniers jours. Mais Pékin ne souhaite pas non plus être sous l'opprobre de la communauté internationale lors de cette fête anniversaire. Donc il y a beaucoup de contraintes.
On va revenir sur l'attitude de Pékin. La question est de savoir combien de temps ça va durer, mais il est structuré comment ce mouvement? Il n'y a pas de chef, c'est très horizontal, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est aussi homogène au niveau des quartiers de Hong Kong? On sait que c'est une ville qui est très, ou une région administrative qui est très étendue et qui est très disparate en fonction des quartiers. Est-ce qu'on a une géographie assez homogène de ce mouvement de contestation? Parce que ça aussi, c'est lu évidemment par Pékin et c'est analysé de manière très précise par les autorités chinoises.
Donc effectivement, c'est assez inouï qu'on rencontre un mouvement de ce type. Donc il y a eu des manifestations, comme vient de le dire Eric Sotede, donc dans des endroits comme Sha Tin ou Tuen Mun, ou vraiment des quartiers extrêmement éloignés du centre politique de Hong Kong, où d'habitude il y a très peu de... Donc Sha Tin, je pense que la manifestation qui a eu lieu vers la mi-juillet était la première à avoir lieu à Sha Tin depuis 1989, donc les manifestations de soutien au mouvement démocratique à Pékin. Donc c'est des quartiers effectivement populaires ou de classe moyenne où peu de revendications politiques s'expriment d'habitude directement. Donc c'est sûr que c'est un mouvement extrêmement qui pénètre vraiment dans toutes les couches de la société hongkongaise. Sur l'organisation, effectivement, c'est assez inouï. Donc il y a cette forme d'un mouvement sans leader. Donc il est organisé largement par des groupes Telegram. Donc quand les revendications ont été formulées, la première formulation des revendications fin juin a été signée par 4 groupes Telegram. Donc là, ce matin, il y a eu une conférence de presse assez inédite du forum internet Lindang, donc LIHKG, donc qui a tenu une conférence de presse citoyenne avec des casques et le t-shirt noir caractéristique des manifestants, pour encore une fois non pas pour donner leur point de vue, mais pour se faire le porte-parole des différents types de participants au mouvement.
Comment est-ce que ce mouvement, et on va retourner à Hong Kong et poser la question directement à Eric Sotede qui est en direct avec nous en ce début d'après-midi à Hong Kong, comment est-ce que ce mouvement réveille peut-être des préoccupations localistes, l'aspiration démocratique crée-t-elle des mécanismes et des revendications identitaires, Eric Sotede?
Oui, alors bien sûr, hein, il y a une affirmation identitaire très forte, une volonté, disons, d'affirmer sa différence. Ce que disait aussi Sébastien, c'est très important, c'est l'idée qu'il y a aussi la question économique. La différence de Hong Kong fait que Hong Kong a un rôle à jouer. Sinon, Hong Kong n'a plus de rôle à jouer, il n'a plus de raison d'être. Ça devient une ville chinoise comme les autres. Et sachant qu'il y a quand même ce qu'on disait par rapport à Pékin, il y a tout le calcul par rapport au monde financier, et Hong Kong doit rester un endroit transparent où la corruption est quand même largement combattue et autant de choses qui n'existent pas en Chine. Donc il y a tout cet aspect-là de l'identité aussi, qui n'est pas simplement de gens qui vivent à Hong Kong, de gens qui sont politisés depuis 89. Tout à l'heure vous évoquiez en disant que très longtemps on avait considéré un petit peu Hong Kong comme un lieu d'apathie politique. Et en fait, on s'aperçoit que depuis on va dire 2003, depuis une quinzaine d'années, Hong Kong est devenu un vrai laboratoire politique de demande de démocratie. Donc là, ça rejoue maintenant avec cette menace qui pèse sur donc l'identité de Hong Kong et la nature de Hong Kong, les valeurs qui sont aussi prônées à Hong Kong avec la loi donc sur l'extradition. Mais c'est vrai qu'il y a une cristallisation autour de ce qui constitue l'identité hongkongaise. Et donc tous ces jeunes, tout ce qu'on a pu dire sur les différentes formes de revendication, les différentes formes de d'affichage, les slogans, le rejet des slogans, les jeux de mots avec le chinois qui est très riche en fait par rapport à ces revendications, tout ça en fait permet de montrer que la langue chinoise aussi, que la culture chinoise peut être très inventive dans le cas de ce type de revendication. Autant de choses qui en fait à l'extérieur on a du mal à comprendre, on a du mal à imaginer. On imagine toujours effectivement le monde chinois comme un peu conservateur, comme étant un peu prisonnier de valeurs disons anciennes ou confucéennes par exemple, etc. Alors que là on a tout un jeu, tout un rejeu de défiance et de revendications qui qui est encore une fois très novateur.
C'est une identité qui s'est construite au fil du temps et par strates, Sébastien de Weg, l'identité hongkongaise. À l'instant, Eric Sotodé parlait de langue, mais il faut préciser qu'on parle de cantonais à Hong Kong, ce qui n'est pas répandu à travers toute la Chine, évidemment. Est-ce que là, on assiste peu à peu à la construction d'une nouvelle strate et d'une nouvelle forme d'identité à Hong Kong ?
C'est un aspect très important du développement de ces dernières années, c'est effectivement l'apparition d'une identité hongkongaise civique. Donc on parle en général de l'apparition d'une identité hongkongaise à partir des années 70, mais qui est une identité assez dépolitisée, qui se repose sur la cantopop, sur la culture commerciale, sur la télévision hongkongaise, mais qui est pas vraiment en tension avec l'identité chinoise, qui rejette l'idée d'une appartenance de Hong Kong au système de Chine populaire communiste, mais qui est pas dans une attitude d'hostilité vis-à-vis de la culture chinoise. Alors à partir des années, je dirais, on peut dater cette évolution du mouvement de Tiananmen, mais le mouvement de Tiananmen est ambigu dans la mesure où beaucoup des soutiens hongkongais au mouvement de Tiananmen sont marqués par une attitude de patriotisme. En fait, ils accusent le parti communiste de nuire aux intérêts de la nation.
Ouais. Chaque année, on manifeste à Hong Kong, hein,
le 4 juin,
c'est ça.
Voilà,
on manifeste aussi pour le 1er juillet, mais le 4 juin pour commémorer les événements de
voilà,
Tiananmen.
Voilà, donc ça a été une évolution extrêmement intéressante de voir qu'à partir de 2009, donc le 20e anniversaire de Tiananmen, cette veillée donc aux bougies dans Victoria Park, qui est un moment très émouvant, où effectivement il y a des aspects, disons, de mise en scène du patriotisme et de la mémoire des martyrs qui sont morts lors de la répression du mouvement démocratique de 89. À partir de 2009, ce mouvement a été réapproprié par une nouvelle génération de Hongkongais. Et il a été réapproprié comme un événement local, en fait. Pas simplement comme... Enfin, ou plutôt... plus tellement comme un événement patriotique qui permettrait de refonder la nation chinoise sur d'autres valeurs, mais comme un événement vraiment lié à la culture politique de Hong Kong. Et donc à partir de ce moment-là, l'identité hongkongaise s'est vraiment transformée dans le sens d'une identité, je dirais, civique et politique. Donc Hong Kong, c'était plus seulement le cantonais, la cantopop, etc., mais c'est devenu la communauté démocratique de Hong Kong. Et la communauté démocratique qui se définit par rapport aussi à ceux qui donc c'est une communauté civique ouverte, elle est éventuellement ouverte aux Chinois qui viennent s'installer à Hong Kong et qui veulent participer à cette communauté, mais elle rejette aussi, disons, l'aspect autoritaire de la culture politique chinoise. Donc ça a été un tournant très important qui ensuite a continué à donner lieu à différents types de positionnements. Donc il y a des groupes effectivement localistes qui sont apparus. Donc, par exemple, là, on voit dans les manifestations actuellement le retour d'un slogan qui est apparu en 2006. Donc, libérer Hong Kong, la révolution des temps. Kuang Fu Xiangang, Shi Dai Ge Ming en mandarin.
Merci.
Qui reprend, en fait, un vocabulaire politique même de la fin des Qing, de la révolution de 1911. Cette idée de libération de Kuang Fu, c'est un terme qui est vraiment caractéristique de cette époque-là. Donc, on voit les strates de la culture politiques historiques chinoises qui se sont qui sont réinventées, réappropriées, redéfinies à Hong Kong.
Eric Sotodé, le sentiment localiste qui correspond pas à des revendications indépendantistes, il en est où aujourd'hui à Hong Kong?
Bah, disons qu'on avait imaginé après les parapluies qu'il aurait complètement disparu, qu'il aurait été nettoyé, et puis il y a eu en plus l'interdiction du parti nationaliste hongkongais qui a rendu les choses encore plus difficiles. Mais on ne peut pas nier la réalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une revendication, et puis même dans la raison d'être de Hong Kong, il y a un haut degré d'autonomie. Donc après se pose la question de qu'est-ce que veut dire cette autonomie à partir du moment où elle est sans cesse questionner, grignoter par une volonté de mise en ordre de Pékin. Donc forcément, elle est amenée à rejouer, à réapparaître. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Sébastien autour du 4 juin, c'est que cette année, bon, j'étais à nouveau à la veillée du 4 juin, et cette année, pour la première fois, alors c'est vrai que les choses ont changé depuis 2009, mais pour la première fois, tous les intervenants lors de la veillée du 4 juin ont évoqué le grand rassemblement du 9 juin, donc contre la loi, contre la, le projet d'amendement de la loi d'extradition, sauf les maires de Pékin, donc les maires de Tiananmen, donc ils n'ont bien sûr qui sont concentrés sur le recueillement et le souvenir de leurs enfants qui ont été massacrés en 89, mais sinon tous les intervenants, et c'est la première fois qu'on voit ça, et toute la manifestation s'est terminée à la fin par un écran noir avec un appel à la manifestation pour le 9 juin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien maintenant direct qui est fait entre ce qui s'est passé en 89 et bien évidemment Hong Kong qui devient l'avant-poste de la revendication démocratique.
On verra aussi ce que signifie cette autonomie hongkongaise dans le temps, puisqu'il y a l'échéance de 2047 évidemment qui arrive. Est-ce qu'on ne joue pas un jeu contre la montre? On continue notre discussion tout à l'heure après le journal de 8h avec vous, Eric Sautodet, donc en direct de Hong Kong par téléphone avec nous. Il est 14h bientôt à Hong Kong et avec Sébastien Vague de l'EHESS. Il est bientôt 8h en France.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Les autorités chinoises vont s'exprimer ce matin dans un peu plus de trois quarts d'heure maintenant lors d'une conférence de presse qui sera consacrée à la situation et à Hong Kong. À Hong Kong et à ce soulèvement auquel on assiste depuis deux mois, depuis le mois de juin. La région administrative spéciale est agitée par ce mouvement inédit, on l'a dit tout à l'heure, dans sa forme et dans son intensité. Mouvement de lutte contre l'hégémonie chinoise, mouvement de lutte pour la création d'une identité hongkongaise, en tout cas de revendication d'une identité propre. Ces derniers jours, la situation s'est tendue sur place. Hier, la grève générale a été très suivie par la population hongkongaise et face à ce qu'elle considère comme un affront, les autorités chinoises envisagent donc de répondre. Alors, que va-t-il se passer? Dénouement violent? Est-ce que l'armée va intervenir? Est-ce qu'on va au contraire temporiser du côté de Pékin? On va retrouver nos invités pour en parler. Évidemment, on va attendre ce qui va se dire tout à l'heure à 9h, Sébastien Vague, directeur d'études d'histoire intellectuelle de la Chine du XXe siècle à l'EHESS. Et puis, nous sommes toujours en direct depuis Hong Kong avec Eric Sautodet, qui est un observateur avisé de la vie locale qui vit et travaille à Hong Kong. Alors, évidemment, je vous demanderai pas ce qui va se passer parce qu'on peut pas le savoir. Néanmoins, Pékin est très embarrassé. On a commencé à le dire tout à l'heure au début de cet entretien. Pékin parle d'un problème de souveraineté qui se pose. On voit bien que là, il y a une réponse très directe à ce qu'on décrivait tout à l'heure de la motivation des différentes composantes de ce mouvement, Sébastien Vague. Quand Pékin parle de souveraineté, ça veut évidemment dire des choses, hein. C'est très explicite.
Oui, je voudrais peut-être, pour expliquer cette question-là, donc revenir un petit peu sur la dynamique du mouvement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est dans une sorte de spirale de surenchère de la part des manifestants, qui se traduit par des actes symboliques qui effectivement sont calculés pour provoquer, pour attirer l'attention du gouvernement et de Pékin. Donc les actes les plus en vue de ce point de vue-là ont été des épisodes où les manifestants ont arraché le drapeau chinois et l'ont lancé à la mer par deux fois.
Par deux fois, hier aussi. Hein.
Voilà, samedi et hier. Donc il est évident que pour Pékin, Pékin n'a pas une attitude, détendue vis-à-vis des symboles de la souveraineté chinoise à Hong Kong et même en général. Donc, si on revient sur cette dynamique du mouvement rapidement, on a la mobilisation qui, dans un premier temps, paraît obtenir un succès avec le report du projet de loi. Et ensuite, il y a une sorte de... Donc, il y a les cinq demandes qui ont été formulées. Donc, pour mémoire, le retrait pur et simple du projet de loi d'extradition, le retrait de la caractérisation des manifestants comme des émeutiers, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, ce qui correspond à une tradition hongkongaise, présidée par un juge, par exemple... la démission de Carrie Lam a disparu entre temps de ces cinq revendications, les réformes démocratiques et la cinquième, j'ai un peu oublié, mais Eric saura nous rappeler.
on va lui demander dans un instant, Eric Sautodet.
Mais donc juste pour finir sur ça, donc ces revendications ont été mises en place, mais le gouvernement hongkongais, alors que on peut quand même estimer que certaines de ces revendications sont vraiment tout à fait faciles à accepter, il y a même eu des fuites disant qu'à Pékin il n'y avait pas d'opposition à l'idée de mettre en place une commission indépendante. Mais le gouvernement hongkongais a pris cette attitude donc d'essayer de retourner l'opinion publique contre le mouvement et de refuser toute concession. Et donc là, on a eu une sorte de spirale, je dirais, de poker menteur entre les deux parties. Donc le gouvernement hongkongais se cache derrière la police est laissée sans instruction et donc est dans une situation où elle réagit de façon de plus en plus désordonnée, de plus en plus violente contre les manifestants. Donc il y a des débordements de plus en plus réguliers, donc il y a des un millier de gaz lacrymogènes, de bombes à gaz lacrymogènes ont été tirées depuis le début du mouvement. C'est inouï à Hong Kong. Normalement, les lacrymogènes, ça n'existait pas à Hong Kong jusqu'au mouvement des parapluies. Donc c'est vraiment une escalade dans l'attitude policière. Beaucoup de débordements policiers bien documentés, donc qui demandent à être vraiment regardés de très près. Et d'autre part, du côté des manifestants, donc il y a cette volonté, donc directement, de s'en prendre à la police, donc de lancer, ils lancent des pavés, ils lancent des briques, ils lancent des œufs contre les stations de police, ils ont mis le feu devant les dortoirs, les résidences des policiers. Donc il y a cette question des symboles nationaux. Donc on est dans une sorte de cercle infernal dont on voit très difficilement comment on pourrait sortir. Donc la réponse de Pékin va être déterminée par cette dynamique, en fait.
On a parlé aussi d'un noyautage des manifestants, en tout cas d'une intervention, et on a vu les images, notamment dans l'aéroport, d'une intervention de triade, ou en tout cas de membres de milices qui viendraient perturber, qui viendraient jeter le trouble sur le mouvement et peut-être désunir aussi les manifestants. Vous accréditez cette thèse, Sébastien Weig?
Voilà, alors merci de l'avoir rappelé. C'est effectivement, donc bon, on n'a pas beaucoup de certitude sur exactement ce qui se passe, mais effectivement, il y a des groupes de contre-manifestants. Donc c'est une des tactiques qu'a utilisé le gouvernement hongkongais aussi pendant le mouvement des parapluies en 2014. Donc des groupes de contre-manifestants pro-Pékin qui arrivent avec des barres de fer, qui s'en prennent aux manifestants. Et effectivement, il y a eu cet événement donc à Yuenlong dans un quartier assez rural de Hong Kong, où un groupe d'une centaine de personnes en t-shirt blanc s'en sont pris à des manifestants, mais aussi simplement à des personnes qui se trouvaient dans le métro en même temps que les manifestants revenaient.
Oui, on revenait de l'aéroport.
Voilà, de la manifestation en fait. Et donc un des députés pro-Pékin a été vu plus tôt dans la soirée en train d'encourager ces personnes en chemise blanche. Donc il y a eu de nouveau ce type de débordement hier avec des manifestants cette fois en t-shirt bleu. On a retrouvé des t-shirts bleus du même type dans un colis envoyé depuis Canton en Chine. Donc effectivement, on se pose des questions sur qui est derrière ces contre-manifestants, mais c'est de toute manière une tactique déjà bien éprouvée du gouvernement hongkongais. Donc évidemment, ça exacerbe encore plus les tensions. On a l'impression que le gouvernement hongkongais est très sévère avec les manifestants puisqu'ils sont accusés d'émeutes. Le département de la justice, donc comme en France jusqu'à il y a quelques années, il y a des instructions directes donc du ministre de la justice au procureur général, et donc la ministre de la justice a autorisé oralement, sans donner d'argumentaire écrit, ce qui est contraire à la tradition hongkongaise, donc à mettre en examen les personnes arrêtées, la quarantaine de personnes arrêtées pour émeute. Donc c'est des accusations qui peuvent encourir des peines de prison extrêmement importantes. Donc encore une fois, on a l'impression qu'il y a deux poids deux mesures. Les personnes qui arrivent avec les barres de fer sont laissées tranquilles, alors que les manifestants sont ciblés.
Ça fait partie d'une stratégie très probablement. Éric Sotodé, à Hong Kong, le 1er octobre, Xi Jinping à Pékin entend bien célébrer en grande pompe les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. Est-ce que c'est dans cette perspective aussi qu'il va être amené à répondre finalement à cette mobilisation hongkongaise?
Oui, enfin, il y a énormément de facteurs. Sébastien le rappelait à la première partie de l'émission. C'est aussi le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis. C'est les élections qui vont avoir lieu aussi à Taïwan. Il va y avoir aussi des élections ici, des élections locales en novembre. Et déjà, les partis pro-establishment, pro-Pékin s'attendent à une sévère déculottée, pour être tout à fait poli. Et puis, il y a aussi des élections législatives à Hong Kong l'année prochaine. Et là, pareil, il y a des inquiétudes. Donc, il y a comme ça plusieurs niveau d'inquiétude, et c'est pour ça peut-être qu'on peut expliquer, c'est comme ça qu'on peut expliquer peut-être aussi les atermoiements et les hésitations de Pékin et les hésitations aussi de la réponse du gouvernement, même si, comme enfin, je vous l'ai dit dès le départ, on a l'impression vraiment d'une incompréhension totale entre les deux bords. Donc d'un traitement, ce que vient de dire Sébastien est très juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette perception de la part des manifestants d'un traitement de deux poids deux mesures, avec ces groupements proches de triades. Ça c'est quand même relativement avéré. C'est des suspicions, mais c'est vu les personnes qui ont été identifiées, il est clair que c'est des interventions de groupes mafieux à Yulon qui n'ont pas du tout été, donc ont été très très peu inquiétés, où la police a tardé à intervenir, a même tourné son regard de l'autre côté.
Oui, c'est ce que disait Sébastien Vague avec d'autres termes, mais ça revient à ça. Hein.
Voilà, c'est ça. Et donc 44 personnes qui ont été inculpées d'émeutes. Et le risque, effectivement, enfin la peine encourue, c'est quand même jusqu'à 10 ans de prison. Donc c'est des lois coloniales. Il faut savoir que c'est des lois coloniales. Hein, donc faut pas non plus imaginer que sous les Britanniques, la situation était parfaitement transparente, puisque c'est des lois qui datent, c'est des ordonnances de sécurité publique qui datent de l'époque coloniale et qui sont très très sévères dès qu'il y a une caractérisation d'émeute. Donc il y a eu une comparution déjà en fait en mercredi dernier et va y avoir une première comparution en cours en septembre. Mais les personnes ont toutes été relaxées, en payant une caution. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression et c'est la perception générale. Donc pour revenir à Pékin, bien sûr, il y a le 70e anniversaire, mais il y avait aussi le 30e anniversaire de Tiananmen, hein, le 4 juin. Il y avait comme ça cette année énormément de symboles et d'anniversaires, et donc ce qui rend l'intervention, je pense, beaucoup plus compliquée. Et puis il y a simplement le fait que Hong Kong est aussi un lieu où il y a énormément de Chinois. Hein, il y a 150 Chinois qui arrivent par jour, hein, en moyenne, c'est ce qu'on estime depuis 1997. Donc on a quand même aussi beaucoup de Chinois qui sont installés ici, qui vivent ici, qui ont une vie ici. Pour tout ce qui est, on a toujours l'habitude de dire, ah oui, mais par rapport à ce que représentait Hong Kong en 97, où c'était 16% du PNB, aujourd'hui c'est plus de 3%, peut-être, mais en tout cas, l'essentiel de tout ce qui est capitalisation boursière et capacité de lever des fonds pour les grandes entreprises chinoises se fait à Hong Kong et pas en Chine, ni à Shenzhen, ni à Shanghai. Donc Hong Kong continue quand même à jouer un rôle très, très utile et très particulier pour la Chine.
On disait tout à l'heure que la démission de Carrie Lam ou la déposition de Carrie Lam n'est plus au chapitre des revendications des manifestants, c'est qu'elle est complètement décrédibilisée, la chef de l'exécutif hongkongais.
Moi, pour être tout à fait franc, c'est-à-dire, je pense qu'aussi il y a la réalisation que de se débarrasser de Carrie Lam, ce serait pas forcément très utile maintenant. Le fait qu'elle soit complètement décrédibilisée fait qu'elle aura beaucoup de mal à passer des choses, enfin à passer des lois ou à mettre en place des politiques publiques qui pourraient être perçues comme des atteintes aux libertés ou aux valeurs de Hong Kong. Donc, d'une certaine façon, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a disparu. Et puis, donc, la cinquième revendication qui était la libération des gens qui avaient été arrêtés de façon arbitraire, ça aussi, c'est un petit peu passé. Pareil, c'était quelque chose qui était très contextuel puisque c'était juste après le 12 juin, donc après ce qui avait été qualifié d'émeute pour la première fois. Donc c'est des choses qui sont très contextuelles. Mais c'est vrai qu'hier, pour être tout à fait, encore une fois, pour être tout à fait honnête, en regardant les revendications, on ne voit plus du tout les demandes de démission. Alors que jusqu'à mi-juillet, moi je suis parti de Hong Kong pendant quelques semaines, mais jusqu'à mi-juillet, on voyait quand même les demandes de démission qui étaient toujours très très présentes.
Ça veut dire que le pouvoir hongkongais est affaibli, Sébastien Vague?
Oui, le pouvoir de Hong Kong, du gouvernement de Hong Kong, certainement. Enfin, en tout cas, ce gouvernement est déjà désigné comme un canard boiteux. Enfin, il est assez certain qu'il pourra plus rien accomplir dans la durée de son mandat, donc les 3 ans restants. Donc, est-ce qu'un nouveau chef de l'exécutif pourrait trouver une issue? Il n'y a pas vraiment de candidat, donc ça c'est un élément de l'équation. Je voudrais juste rappeler ce qui s'est dit, puisqu'il va y avoir dans une demi-heure une nouvelle conférence de presse du Bureau des Affaires de Hong Kong et Macao du Conseil des Affaires de l'État à Pékin. Donc c'est la deuxième conférence de presse. Donc il y a une semaine, ils ont donné une première conférence de presse où ils ont rappelé trois lignes rouges à ne pas franchir. Donc la souveraineté de Pékin sur Hong Kong, l'autorité du gouvernement central et du gouvernement hongkongais le fait que Hong Kong ne puisse pas servir de base de subversion à la Chine. Donc ça, ce sont les choses qui vont guider l'action de Pékin et qui seront mises en équilibre avec effectivement la nécessité de préserver la prospérité à long terme de Hong Kong. Hong Kong comme centre financier, comme centre des affaires qui sert les intérêts chinois, ne pas se laisser entraîner dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Mais donc c'est un calcul très difficile et le chef de l'exécutif n'est qu'un petit élément, je dirais, dans cette équation très compliquée.
Hong Kong, c'est aussi, comme le dit le Figaro ce matin, le coffre-fort discret des élites chinoises.
Tout à fait. Sébastien Tout à fait. Ouais. Oui, et c'est un élément, effectivement, c'est le lieu de donc où les devises étrangères peuvent entrer en Chine et les fonds chinois sortir de Chine. Donc ça, c'est très important pour les dirigeants chinois.
Si on se replace dans un temps un peu plus long et pour terminer, Sébastien Dweck, est-ce qu'on est dans une course contre la montre d'ici 2047? C'est la date prévue pour la fin, finalement, d'un état de système?
Oui, j'en profite pour remettre un petit peu en cause cette idée-là. Alors bien sûr, c'est vrai que donc ce que dit la déclaration conjointe sino-britannique de 1984, c'est que le haut degré d'autonomie de Hong Kong est garanti pour au moins 50 ans. Mais en 2047, la loi fondamentale de Hong Kong ne s'arrête pas. C'est-à-dire que a priori, Pékin est toujours sous la contrainte de la loi fondamentale. Donc pour l'amender, il y a un certain nombre de procédures. Donc il faut pas non plus accréditer l'idée que à partir de 2047, Pékin aurait les mains libres complètement à Hong Kong. Alors, c'est vrai que la garantie juridique donc du traité déposé aux Nations Unies, de la déclaration conjointe, ne couvre que la période jusqu'en 2047, mais les Hongkongais, certainement, sauront prendre le relais de ce qui était garanti par l'ancienne puissance coloniale.
C'est ce qu'ils sont en train de montrer. Merci à vous, Sébastien Dweck, de l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, un grand merci aussi à Eric Sautedet, qui était en direct au téléphone avec nous depuis Hong Kong.